Bienvenue dans À tes amours, le podcast qui propose une autre manière d'aborder les relations. Nous sommes Adèle,
Alexia
et Sacha.
Et nous allons vous parler notamment d'émotions, de communication, de polyamour et d'autres formes de non-monogamie. Ce podcast s'adresse à toute personne s'interrogeant sur les relations.
Parfois, j'ai l'impression d'être un alien. J'ai l'impression de venir d'une autre planète parce que parfois je ne comprends rien à ce qui se passe autour de moi. En fait, le sexe ne m'attire pas. Je me suis longtemps demandé ce qui clochait chez moi parce que tout le monde autour de moi avait l'air de dire que le sexe, c'est la meilleure chose, c'est hyper agréable, c'est ce que tout le monde veut, c'est l'acte d'amour absolu et aussi apparemment c'est le ciment du couple. Alors pourquoi ça me laisse si indifférente ? Donc moi là-dedans, à ne pas vouloir de sexe, même avec les personnes dont je suis amoureuse, je me disais vraiment que j'avais raté un truc. Je me posais des questions dans tous les sens, à la recherche d'une explication pour me sauver de ma confusion abyssale. Et puis j'ai découvert le concept d'asexualité. Apparemment, une personne asexuelle ressent peu ou pas d'attraction sexuelle. Et apparemment, c'est acceptable d'être comme ça. Genre, j'ai le droit de pas avoir envie de ken ? Je vous avoue que ça a été une petite révolution pour moi, mais c'était loin de répondre à toutes mes questions. Avec mes fidèles acolytes, Adèle et Sacha, on discute aujourd'hui d'asexualité, de la variabilité des rapports au sexe et des questions que ça soulève. Dans une première partie, on parle de différents vécus asexuels. Ensuite, on développe un peu les problèmes auxquels on est confronté quand on est asexuel. Et puis on s'intéresse à comment on relationne quand on est asexuel, et en miroir, comment on relationne avec une personne asexuelle. Pour commencer, je veux vous poser une question à tous les deux. Si vous voulez bien, ma question est la suivante. C'est quoi être asexuel, de ce que vous comprenez ?
Une personne asexuelle, c'est une personne qui n'est pas ou peu intéressée par de la sexualité. En tout cas, elle est moins intéressée par la sexualité que la normale des gens.
Oui, effectivement, on avait déjà parlé des différentes formes d'attirance et on avait parlé de l'attirance sexuelle notamment. Et pour moi, une personne asexuelle, c'est une personne qui ressent peu ou pas du tout d'attirance sexuelle envers autrui. On peut aussi le définir d'ailleurs comme une orientation sexuelle à part entière. C'est d'ailleurs la définition du livre Sexo-queer qui commence par dire « c'est une orientation sexuelle ».
Moi, j'ai un peu du mal avec ce détail d'orientation parce que pour moi, orientation, c'est une sorte de direction. Et en fait, du coup, là, c'est pas une question de direction, c'est juste qu'on n'avance pas. Et du coup, genre, en étant asexuel, on peut être pas attiré du tout, mais ça peut être attiré éventuellement un tout petit peu. Et on peut, en étant asexuel, être attiré par un genre ou un autre, éventuellement. Donc ça, je trouve que ça superpose un peu avec le concept d'orientation, c'est-à-dire quel genre est susceptible de t'attirer.
Tu peux avancer, mais sur d'autres axes.
Ouais.
Et déjà, tu avances un petit peu sur l'axe sexuel, mais d'une manière moindre que d'autres, et t'avances sur d'autres axes. Ça peut être l'axe romantique, sauf si tu es également aromantique, mais tu avances sur l'axe de la complicité, l'axe de construire des choses ensemble, n'importe quel autre type d'axe que tu peux vouloir mettre dans une relation.
Ouais.
Effectivement, pour moi, on peut rajouter un degré d'intensité. Cela dit, moi, je trouve ça assez intéressant de le définir comme une orientation, parce que personnellement, je ne connaissais pas du tout le terme d'asexualité avant ma vingtaine. Et je pense que si c'était une orientation plus reconnue et du coup forcément plus représentée, j'aurais peut-être été exposée plus tôt à ce modèle et à l'existence, en fait, de d'autres personnes asexuelles. Et peut-être que ça m'aurait aidé dans ma construction.
Ouais. Après, du coup, effectivement, c'est un truc dont on parle pas beaucoup. Et c'est pour ça que on veut en parler aujourd'hui. Et Sacha, tout à l'heure, t'as soulevé que on pouvait être asexuel et aromantique. Ça demande un petit peu de clarifier, peut-être, pour des gens qui feraient pas bien la différence. Est-ce que tu veux le faire?
Pour moi, les personnes asexuelles, donc, sont des personnes qui sont pas intéressées effectivement par des actes de nature sexuelle. Après, il y a toute une grande diversité, c'est un très grand spectre. On aura l'occasion d'en parler plus dans l'épisode. Et généralement, il n'y a aucune personne asexuelle qui va se targuer d'être la personne représentative de la sexualité en général. Et enfin, je vais le redire en mettant plus de pauses entre les mots. La asexualité en général, parce que il y a tellement de vécus différents. Et pour les personnes aromantiques, c'est la même chose. Il y a tellement de vécus différents. Donc, aucune personne ne va se targuer d'être représentative de ce que c'est l'aromantisme. Mais il s'agit de personnes qui vont ne pas développer de sentiments amoureux ou qui vont pas ressentir ce besoin de faire couple tel qu'on le montre dans les comédies romantiques ou toute cette vision de l'amour-là qui ne comprennent pas du tout et se retrouvent pas là-dedans.
Mmh. Ouais, moi, et par rapport à ça, il y avait vraiment un truc que je voulais souligner, qui est, en fait, pour des personnes qui sont sexuelles, on parle d'allosexuels, pour parler des gens qui ont, entre guillemets, normalement envie de sexualité. Pour ces personnes-là, souvent, le fait d'être amoureux, c'est lié au fait d'avoir envie de faire l'amour avec quelqu'un. Pas pour tout le monde, mais pour certains, le concept d'être amoureux et d'être attiré sexuellement, c'est très fusionné. Et donc, les gens comprennent pas forcément qu'on peut tomber amoureux sans avoir de désir sexuel. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de désir sexuel qu'on n'est pas amoureux, quoi.
Mais finalement, dans l'image populaire, cette décorrélation entre les deux peut être un petit peu compris, mais uniquement dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense que c'est assez bien compris que, alors pas pour tout le monde, mais qu'il y a quand même pas mal de gens qui peuvent avoir envie de sexualité sans qu'il y ait de sentiments amoureux derrière. Et donc ça, c'est admis. Mais par contre, l'inverse, d'être amoureux sans sexualité, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, en tout cas. Enfin, c'est ce que dit...
C'est ce que dit la société. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans la sexualité d'une personne asexuelle? Est-ce que c'est des gens qui font jamais l'amour, du coup?
Alors, c'est une confusion qui est souvent faite. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont parler aussi d'abstinence, c'est-à-dire le fait de pas faire de sexe, de se retenir de faire du sexe. Mais en fait, pour le coup... La asexualité et l'abstinence, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas du tout à confondre. Une personne asexuelle, potentiellement, peut faire du sexe, ce qui peut être perturbant à comprendre pour les gens, mais il y a plein de raisons, en fait, qui peuvent amener une personne asexuelle à avoir, malgré tout, une sexualité, qu'elle soit avec elle-même en termes de stimulation pour ressentir une forme d'excitation avec la masturbation, ou que ce soit avec quelqu'un pour connecter avec l'intimité de quelqu'un. Ce qu'il faut comprendre, ce qui peut être un peu perturbant, c'est que une personne asexuelle ne va pas avoir d'impulsion naturelle vers l'activité sexuelle. C'est-à-dire que généralement, ça va pas être quelque chose d'important, le sexe. Mmh. C'est pas pour autant quelque chose qui est strictement impossible, ou alors ça peut l'être pour certaines personnes asexuelles, mais c'est pas nécessairement le cas.
C'est pas un besoin, quoi.
Oui. Et les prédispositions vers la sexualité chez les personnes asexuelles, elles peuvent être très très variables. On peut être totalement repoussé par le concept même du sexe, et pas du tout en vouloir, mais certaines personnes asexuelles vont apprécier, dans certaines circonstances, avoir une sexualité. Moi, je me souviens que ça m'avait marqué dans le podcast Sine Eden Sublime, l'épisode 16 sur la asexualité. La personne interrogée faisait une métaphore avec des fraises et l'appétit pour les fraises. Et elle disait globalement, être asexuel, c'est un peu comme si on aime les fraises, mais on n'a jamais faim. Du coup, si on mange des fraises, on peut être écœuré par les fraises, et pourtant tout le monde nous dit c'est super les fraises, on adore les fraises, c'est trop bizarre de pas aimer les fraises. Mais en fait, c'est pas qu'on aime pas les fraises, c'est juste qu'on est écœuré et qu'on a jamais envie d'en manger.
Ouais.
Pour autant, on pourrait en manger.
Ouais. Dans un autre épisode où il y a Vincent qui intervient et qui parle de trois types d'asexualité, il y a des gens qui peuvent être sex repels, il dit, genre, qui refusent de faire du sexe. En gros, c'est horrible pour eux. Enfin, c'est plus ou moins horrible. C'est genre, soit absolument ennuyeux, soit complètement dégoûtant.
C'est pas seulement qu'ils refusent, c'est aussi qu'il y a une répulsion qui est assez forte, mais parfois cette catégorie-là, ça s'associe à des gens qui vont être horrifiés à l'idée de, quand on parle de sexualité, s'il y a des blagues ou s'il y a des allusions à la sexualité dans un média, ça va leur faire un effet assez négatif corporellement, enfin potentiellement. Ouais. En tout cas, c'est ce qui peut rentrer dans cette catégorisation-là aussi.
C'est ça, que moi personnellement j'appelle être sex-neg, et je considère que j'ai un peu été parfois dans ma vie. Il y a sexe indifférent, qui est du coup du sexe, pourquoi pas, ça me fait un peu ni chaud ni froid, mais genre ça peut être pour faire plaisir par exemple à son partenaire. Et il y a sexe favorable, qui est en vrai la sexualité ça peut être agréable, c'est juste que j'y pense pas particulièrement quoi. Moi j'ai un gros truc de c'est pas que je déteste ça et que c'est horrible, mais en fait j'y pense même pas quoi. Ce qui fait que parfois genre je passe à côté des... Enfin, je suis vraiment hyper nulle à reconnaître des sous-entendus parce que j'y pense pas, en fait. C'est pas une option dans ma tête, quoi.
Et du coup, ce sexe favorable, c'est cette idée de... Effectivement, t'es pas forcément intéressé, mais t'as une ouverture d'esprit et éventuellement une envie d'aller essayer pour faire plaisir à ton partenaire, ou parce que tu sais que parfois c'est bien pour toi, mais en fait, juste... T'es pas motivé plus que ça, mais en tout cas, t'as cette ouverture d'esprit.
Ou par curiosité, tu vois, genre, c'est comme, je sais pas, c'est comme les huîtres. J'aime pas les huîtres, mais de temps en temps, je goûte pour voir si j'aime plus.
Généralement, les métaphores avec l'appétit fonctionnent bien pour que les gens se fassent une représentation.
Ouais. Il y a vraiment des trucs aussi où des personnes asexuelles peuvent être simplement confuses sur leur envie de sexe. En tout cas, personnellement, je sais que il y a vraiment des moments dans ma vie où j'étais pas vraiment capable de savoir si j'avais envie de sexualité ou pas. Mais c'est un peu compliqué, encore une fois, comme on nous dit qu'on est censé en avoir envie. Parfois, c'est un peu difficile de s'écouter, j'ai trouvé. Et donc, ça m'est arrivé de performer le fait de vouloir du sexe, de performer l'excitation, parce que je croyais que c'était le truc normal à faire, quoi. Donc, je pense que il y a aussi des choses qui se jouent peut-être au niveau des neurones miroirs, où quand on voit l'excitation chez un partenaire, ça peut finir quand même par nous exciter.
Après, le fait de pas savoir si on a réellement envie de sexualité, je pense que c'est quelque chose qui peut toucher absolument tout le monde, puisque la question de est-ce qu'on a envie de sexualité est une question qu'on se pose probablement pas assez de par le fait que, eh bien, si on est amoureux, on doit censé avoir, avoir de la sexualité et c'est censé être quelque chose de présent. Donc, la question se pose peut-être pas suffisamment pour tout le monde, mais en tant que personne asexuelle, c'est un problème qui va devenir plus souvent puisque, la réponse à cette question, si on se la poserait, serait beaucoup plus souvent non que pour le reste de la population.
D'ailleurs, il y a un truc qui est, chez des asexuels, de se sentir vraiment soulagé quand ton ou ta partenaire dit qu'il ou elle a pas envie de faire l'amour, quoi.
Ah oui, ça m'est tellement arrivé.
Petits indices.
Mais ça, pareil, ça arrive à tout le monde qui, en fait, n'a pas envie de faire l'amour, mais n'ose pas dire « Ah, ce soir, j'ai pas envie », parce que refuser de la... Bon, on en parlera probablement plus tard, mais effectivement, refuser de la sexualité, c'est quelque chose qui peut être chargé, dire « Ah, tu ne m'aimes plus » ou ce genre de choses. Mais encore une fois, ça peut arriver à tout le monde, mais pour les personnes asexuelles, ça va arriver beaucoup plus souvent, puisque beaucoup plus souvent, ces personnes... Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup. C'est un ordre de grandeur réellement dessus. Pour ce qui est de la définition et la présentation des personnes asexuelles, moi je trouve qu'effectivement, pour se donner une idée de la représentation de la variété de ce à quoi ça peut ressembler, cette catégorisation là que tu as donnée, Alexia, déjà de à quel point les personnes asexuelles peuvent avoir une attitude favorable, indifférente ou repoussante à la sexualité, ça donne déjà un bel aperçu de ce que peut être le spectre. Mais il y a d'autres termes qui sont utilisés pour définir différentes personnes à différentes positions du spectre, alors selon... Plus selon un axe cette fois-ci, mais un peu différentes positions, parce qu'en fait les personnes asexuelles, alors il y en a, c'est simple, c'est juste effectivement elles ont jamais envie de sexe et le sexe ne les intéresse absolument jamais. Bon voilà, c'est simple et elles méritent, enfin non pas que les autres ne sont pas méritantes, mais en tout cas le terme asexuel étymologiquement leur correspond bien, puisqu'on a le A de absence. Ça veut probablement dire autre chose en latin ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est la signification que ça veut dire. Et après, comme en fait c'est souvent pas si simple, il y a pas mal de personnes asexuelles qui en fait ont, dans certaines circonstances, parfois envie de sexualité ou apprécient la sexualité. Eh bien, il y a ce terme qui est utilisé de gris sexuel ou gris sexuel en français, qui est en gros l'idée de dire, bah en fait, on parle de tout un spectre, tout un continuum de personnes différentes. Et à l'intérieur de ce long continuum, il y a plusieurs autres mots qui sont utilisés pour définir des archétypes, peut-être. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, des catégories un peu de personnes. Et je trouve intéressant de les mentionner, pas pour retenir ces mots, puisque ils ne seront pas utiles à retenir, à moins que ça vous concerne. Dans ce cas-là, ça donne une porte d'entrée qui peut être très utile pour trouver des personnes comme vous. Mais parce que bah voilà, ça donne un bel aperçu. Et donc, dans ces mots, on a probablement le plus utilisé, le plus connu, en tout cas celui que j'entends le plus, c'est le mot de demisexuel, qui sont les gens qui... Ce sont des personnes pour qui le désir sexuel n'arrive que au fil du temps d'une relation, au bout d'un moment, qui a vraiment une relation de confiance intime importante qui s'est créée avec quelqu'un, et c'est uniquement sous ces conditions que le désir sexuel peut commencer un petit peu à arriver.
Ouais. Après beaucoup de complicité et de trucs auparavant, quoi.
Voilà. Et à l'opposé de cette catégorie-là, il y en a une autre dont j'avais jamais entendu parler, mais qui est les frays sexuels. Et ça, ce sont les personnes asexuelles qui n'ont d'attirance sexuelle que avec des inconnus, quoi. En gros, qu'au tout début d'une relation, peut-être avec l'énergie d'une nouvelle relation, ça va leur donner envie de sexualité. Et puis, une fois que ça s'est passé, il n'y a plus rien.
Ouais. Est-ce qu'on peut être les deux, genre, on a besoin de complicité, et même après, quand on connaît trop la personne? Parce que ça me parle.
Dans ce cas-là, tu n'as jamais envie de sexualité.
Bah, c'est juste à un moment très spécifique, tu vois.
Au bout de exactement 2 semaines.
c'est ça. C'est très pratique, mais que voulez-vous?
Et enfin, le dernier que je trouve intéressant, c'est un terme qui s'appelle aégosexuel.
Ouais.
Et ce sont des personnes pour qui l'excitation sexuelle existe. Il y a un attrait pour la sexualité qui est présent. Notamment quand ils peuvent le voir dans des médias, dans de la fiction, dans des fantasmes, mais que en pratique ça peut éventuellement se traduire par de la masturbation, mais ça se traduit pas du tout avec l'envie de réaliser des pratiques sexuelles avec d'autres gens.
Ouais. Et bah comme quoi ça nous fait pas mal de trucs, hein. Plein de 50 Shades of Asexuality. Petit warning aussi sur les asexuels et la consommation d'alcool. Je pense que c'est pareil, quand on est confus sur est-ce qu'on veut de la sexualité, ça peut être compliqué de mélanger les injonctions et l'alcool, quoi.
Ce qui est le cas d'une manière générale vis-à-vis du consentement et de est-ce qu'on est lucide pour prendre une décision et dire un vrai oui. Je pense que c'est une question qui n'est que peu posée, puisque pour beaucoup de gens, finalement, l'alcool est un facilitateur de liens.
Ouais,
et ça peut être super traître pour des personnes qui sont un petit peu moins dans la norme et qui vont avoir plus de difficultés à se positionner et qui vont vraiment avoir besoin de toutes leurs capacités cognitives et physiques pour se rendre compte de si elles ont envie ou non de s'investir dans un rapport.
Ouais. Parce que l'alcool, ça inhibe les warnings et les trucs de « en fait, j'ai pas envie », quoi.
Et pour rappel, évident, mais pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, il faut s'assurer du consentement de cette personne-là. Et pour s'assurer du consentement de ces personnes-là, il faut qu'elle puisse être en mesure de donner son consentement de manière éclairée et réfléchie. Et si cette personne est alcoolisée, elle n'est plus en mesure de donner son consentement.
Maintenant qu'on a vu qu'être asexuel, ça recouvre une très large palette d'expériences, j'aimerais qu'on aborde plus particulièrement à quel problème on est confronté en tant que personne asexuelle. Par où on commence ?
Moi, je voulais déjà rappeler le gros problème qu'il y a par rapport à la pathologisation du fait d'être asexuel. En fait, ce dont il faut se rappeler, c'est que jusqu'en 2013... l'absence de désir sexuel était considérée comme un trouble mental et ou physique, voire une maladie, dans le manuel diagnostique des troubles mentaux, qui est un ouvrage de référence en psychologie et en psychiatrie. Et finalement, 2013, c'est assez récent. On sait d'ailleurs que d'autres orientations sexuelles avaient été jugées anormales. L'homosexualité avait aussi été inscrite dans ce manuel jusqu'en 1980. Mais en gros, ce que ça signifie, c'est que finalement, le fait d'être asexuel, c'est vraiment considéré comme un problème, un truc bizarre. Et c'était vraiment très récemment seulement que ça commence à être reconnu comme quelque chose de possible sans qu'il y ait une pathologisation de ce truc-là, et moi je trouve ça assez choquant. Il y a un jugement moral très 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 fort sur la sexualité. La asexualité, pardon.
Bah, c'est vraiment une sorte d'interdiction d'exister en tant que telle, quoi.
Oui, et 2013, finalement, bon, on va dire que c'était il y a une douzaine d'années. Moi, j'avais la vingtaine à ce moment-là. Vous imaginez bien que, en termes de construction, c'est pas facile de se dire qu'on a un souci si jamais on n'aime pas le sexe ou qu'on n'a pas de désir sexuel. Et je trouve ça assez choquant de me dire que des adultes, même de référence, des médecins ou autres, je pouvais pas parler de ces problématiques-là sans qu'on me dise que finalement j'avais un truc à soigner.
Ouais. D'ailleurs, du coup, sur ce qui concerne la pathologisation, il y a des personnes qui sont asexuelles et on leur dit « Ah non, mais en fait, si t'aimes pas le sexe, c'est parce que t'as un trauma. » Et c'est vraiment compliqué parce que, d'une part, enfin, éventuellement, ça peut être le cas, mais déjà, c'est pas vous qui savez. Laissez-nous savoir ce qui nous concerne. Et ensuite, il y a des trucs aussi, je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais il peut y avoir des personnes qui ont été violentées justement parce que elles sont asexuelles et du coup elles sont dans, elles se mettent dans des situations sans les voir venir entre guillemets et du coup c'est un peu le fou la poule potentiellement aussi quoi.
Oui, pour rebondir sur ce sujet-là, moi c'est quelque chose qui m'avait vraiment travaillé parce que justement beaucoup de personnes se permettaient de me dire que si j'étais asexuelle, c'était probablement lié à un trauma.
Ouais.
Et j'ai éprouvé le besoin de consulter une sexologue à ce sujet tellement ça me travaillait cette question. Et elle m'a dit deux choses qui m'ont énormément aidée par rapport à ce point-là. C'est que déjà, effectivement, comme tu le disais, Alexia, quand on n'a pas ou peu de désir, en fait, le trouble peut venir du fait qu'on s'est forcé à un moment où le désir n'était pas là. Et donc, le fait de ne pas s'écouter peut créer un trauma, mais en fait, on pouvait être asexuel avant le trauma. Et c'est juste que ça rajoute une énième couche au fait de sentir qu'il y a un problème avec la sexualité. Le problème là-dedans qui a créé le trauma, ce n'est pas le fait d'être asexuel, mais c'est de s'être forcé à un moment où finalement, c'était pas bon pour soi. Et après, elle m'a dit une autre chose qui est que globalement, la sexualité, c'est compliqué pour tout le monde, surtout dans une société où finalement, on l'a déjà dit, mais le consentement n'est pas forcément mis en avant. La pression autour du sexe, elle est super importante, il y a des enjeux de performance. Et finalement, c'est très rare de voir des personnes qui n'ont pas eu d'expérience, au mieux un peu nulle, au pire carrément traumatisante avec le sexe. Et d'une certaine manière, ce témoignage de sa part m'avait aidée parce que avoir des problèmes avec le sexe ne fait pas qu'on est nécessairement asexuel. Et par contre, le fait d'être asexuel renforce ces problématiques liées au sexe, forcément, quoi.
Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'en tant qu'asexuel, on se sent assez vite cassé ou incomplet parce que nous renvoie la société à cause de ça. Et c'est assez déstabilisant comme truc, quoi. Et avec ça, il peut y avoir une peur de ne pas avoir de valeur, parce que le sexe, c'est tellement valorisé que on se dit, si je veux pas de sexe, est-ce que les gens veulent bien de moi quand même, quoi?
À ce propos, d'ailleurs, je trouve que en tant qu'asexuelle, en particulier en tant que femme asexuelle, c'est assez terrible parce que on est coincé entre deux pressions sociales que je trouve très fortes. En gros, souvent, déjà, en tant que femme, on a le choix entre être une allumeuse quand on aime le sexe et qu'on va vers le sexe ou qu'on s'habille d'une manière sexy, etc. ou être une prude. Et potentiellement, en tant qu'asexuelle, c'est assez terrible parce qu'on est les deux. Dans le sens où on s'habille sans forcément voir que ça va créer du désir pour les personnes et du coup, on va nous labelliser comme allumeuse. Mais on va être un objet de désir qui ne s'offre jamais puisqu'on n'aime pas le sexe.
C'est
et donc, on va être labellisé prude. Et ce truc-là est très, très problématique aussi. Alors, peut-être que pour les hommes, il y a aussi d'autres problèmes liés au fait d'être asexuel. Mais en tout cas, de mon expérience, être une femme asexuelle, c'est très dur parce qu'on a vraiment les deux pires jugements liés au sexe pour les femmes. Et c'est vraiment pas cool.
Ouais, j'ai été très déstabilisée récemment quand quelqu'un m'a dit « Mais si tu veux pas de sexualité, pourquoi tu t'habilles sexy ?» Et j'étais là genre « Je sais pas. » Et en fait, j'ai capté, en fait, c'est juste que être habillé sexy, se comporter de façon sexy, c'est tout ce qui est valorisé par la société, c'est les exemples qu'on a, quoi. Et moi, je grandis en voyant des femmes maniérées à l'écran, dans les séries ou je sais pas quoi. Et les femmes valorisées, elles ont des manières ou des façons de s'habiller qu'on m'a vendues comme étant valorisées. Et du coup, moi, je fais que copier comme un petit mouton que je suis. Mais juste, j'ai pas le sens sexuel qui vient avec, quoi. Donc, je suis un peu une impostrice de la sexitude.
Donc, quand on est une personne asexuelle, on peut être soumis à des critiques, voire à des insultes. C'est forcément des jugements moraux qui peuvent faire se sentir en mal, déjà, ou se sentir anormal et en décalage par rapport à d'autres personnes. Et ça peut être assez douloureux à vivre, surtout si c'est très récurrent comme commentaire et qu'on y est exposé très, très fréquemment. Quand bien même on a une estime de soi et une confiance en soi assez solide et qu'on sait qu'on est asexuel, parce qu'il y a ça aussi, au début on ne le sait pas forcément, ça peut être difficile d'y faire face, sachant que bah, par ailleurs, le fait de parler de sexualité chez les jeunes à l'adolescence et puis ensuite lors de la vie adulte, c'est assez fréquent. Et du coup, ça peut être difficile d'y être non seulement exposé, de pas y être intéressé et puis que les gens nous posent des questions à ce sujet-là et de se sentir pointé du doigt parce que on ne vit pas les choses de la même manière que les autres. Donc ça peut être assez douloureux à vivre.
Et tu parles de propos qui peuvent être assez agressifs de la part des gens, mais c'est hyper révélateur ces propos de juste à quel point ils comprennent pas en fait. Et ils arrivent pas à comprendre potentiellement qu'on est absolument pas excité, ils sont là mais t'es sûr, t'es pas excitée? Bah non, pas du tout. Si je suis sûre, je suis pas du tout excitée.
Et ça amène parfois d'ailleurs des pensées chez les gens en face qui sont très très problématiques, du type quand tu dis que le sexe ne t'intéresse pas et que t'as pas envie de sexe. Moi, ça m'est déjà arrivé que des hommes en face se disent dans leur tête, sans me le dire nécessairement, avec moi, ce sera différent et elle va aimer le sexe.
Ouais, il y en a qui prennent ça pour un défi, mais non, non, en fait, c'est pas un défi. J'ai juste pas envie de sexe. Calmez-vous.
Ou tu le racontes à tes amis et ils vont te dire, c'est parce que t'as pas rencontré la bonne personne.
Ouais.
Et ce discours-là est aussi très douloureux à recevoir parce que t'es là, mais non, mais c'est pas du tout ça.
C'est ça. Et c'est très agaçant ce truc-là parce que ça décrédibilise nos amours, en fait. Et il y a des gens qu'on peut aimer très fort et on fait pas de sexualité avec ces personnes, mais c'est des personnes qui sont dans notre vie, et pour les gens qui associent sexe et amour, ils sont là, non, mais cette personne compte pas vraiment. Et ça aussi, c'est un truc très agaçant, quoi. C'est juste, c'est pas parce que j'ai pas envie de sexe que mes amours n'ont pas de réalité, quoi.
Bah, sexualité et amour sont tellement fusionnés dans la tête des gens que si tu expliques que tiens, amoureux de quelqu'un, mais qu'il n'y a pas de sexualité, ils vont te dire, non, mais en fait, vous êtes amis, quoi.
À ne pas vouloir de sexualité, du coup, on a parlé du décalage. Bah, il y a ce truc, comme tu disais, Adèle, effectivement, de complicité, d'aimer éventuellement de la complicité, de bien aimer être proche des gens et de pas vouloir de sexe. Et du coup, ça peut poser problème. Et il peut y avoir des sortes de sous-entendus ou de choses que t'es censé comprendre et que tu comprends pas forcément. Moi, j'ai été invitée à boire un thé un jour. Et pour moi, j'allais boire un thé, quoi. Et en fait, j'arrive et 5 minutes après, le gars, il est en train de m'embrasser. Et je suis là, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment pas vu comment on en est arrivé là, quoi. Et donc, après, je me suis un peu éloignée. Il a été respectueux, mais il y a un vrai malentendu sur ce que ça veut dire boire un thé.
Mais ça, c'est aussi la culture du sous-entendu où les gens trouvent ça romantique d'avoir du sous-entendu, de ne pas dire les choses, que comme ça, ça serait plus fluide, plus simple, etc. Mais ça, le fait de pas dire ce qu'on veut, etc., ça mène juste à des situations absurdes. Moi, je repense régulièrement à toi, Alexia, qui disait « Oh, j'en ai marre si je me mets à dormir dans un lit avec un mec parce que juste on dort dans un lit et parce que je sais pas, il y a pas assez de place ou juste c'est sympa parce qu'on se fait 2-3 câlins avant de s'endormir. Et bah lui, il va se dire que on dort dans un lit donc on va avoir du sexe, etc. » Et à côté de ça, une amie à nous qui disait « Oui, moi je me suis mis dans un lit avec un gars et le gars il a eu l'outrecuidance de ne pas se rapprocher de moi et me faire de bisous, mais vraiment... il est complètement stupide. Évidemment, si j'étais dans un lit avec lui, c'était clairement que j'avais envie qu'il me fasse des câlins. Donc, il m'a rien fait du tout. Et quel scandale, quoi. Et en fait, le côté de deux personnes différentes, qui sont deux femmes en plus, donc il n'y a pas le côté genré qui pourrait changer une histoire là-dessus, qui se disent « Ok, je veux dormir dans un lit avec un mec », qui ne disent rien, alors c'est pas pour jeter la pierre sur aucune de vous deux, mais qui ne disent rien, et cette culture du sous-entendu qui dit « Oui, on va laisser... » Le sous-entendu est évident, et le sous-entendu est toujours évident dans la tête des gens.
Je suis totalement d'accord avec les aspects sur l'implicite qui peuvent être perçus dans les deux directions. Après, moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est que, en tant qu'asexuel, même quand tu verbalises que tu n'es pas attiré par le sexe et que tu mets un cadre pour dire aux personnes, bah, si on dort ensemble, finalement, il n'y aura pas de sexe. Mm-hmm. Si les personnes se retrouvent, par exemple, à te faire des grattes un peu sur le bras, etc., moi, ça m'est arrivé que les personnes ressentent de l'excitation en face et se disent, bah en fait, du coup, je pensais qu'il y aurait du sexe. Et t'es là, mais on avait dit que non. Donc tu n'es pas entendu parce que les gens ne comprennent pas finalement que c'est possible de ne pas avoir d'attirance et que ton désir ne soit pas là. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver face à une personne qui est là, mais vraiment, t'es pas excité. Mais même si je te touche les seins et tout, t'es pas excité. Je suis là, genre, ouais. Au secours.
Laisse les seins tranquilles à ce stade, s'il te plaît. Ouais. Et c'est compliqué et c'est hyper genré aussi. Toi, j'ai l'impression, Adèle, que tu parles de relations hétéro avec une meuf asexuelle et un mec, du coup, qui comprend pas et qui est là genre « Mais vraiment, mais c'est pas possible. Comment peut-on ne pas être attiré par mon corps ?» Et ce qui est pénible, c'est que bah, y a aussi des asexuels mecs et des femmes qui ont du mal à comprendre ce truc-là. Et là, l'enjeu, il se fait un peu différemment. C'est-à-dire que je pense que les femmes sont plus... éduquer à avoir besoin de validation extérieure. Et en plus, on nous dit que les mecs, ils sont attirés par tout ce qui bouge. Et du coup, si t'es une meuf allosexuelle et que tu te retrouves avec un gars qui est asexuel, potentiellement, ça va te donner un sacré coup dans ta confiance en toi. Parce que t'es là, mais qu'est-ce qui se passe si ce gars veut pas coucher avec moi? Est-ce que ça veut dire que je suis absolument horrible? Qu'est-ce qui va pas avec moi? Enfin, il y a des choses comme ça où on peut se monter la tête... Et du coup, genre, pour le gars, il est là, genre, non, c'est juste que j'ai pas forcément envie de faire du sexe, tu vois. Enfin...
Mmh. Ouais, effectivement, j'ai une relation qui me partageait ça et qui me disait, mais en fait, moi, le sexe, ça me gave et j'arrive pas à le faire comprendre. Et bon, bah, du coup, parfois, c'est même plus simple, vu qu'il est pas repoussé par le sexe, de faire du sexe pour satisfaire sa partenaire et puis, même si c'est pas spécialement quelque chose qu'ils recherchent, c'est ça me permet d'éviter justement l'aspect incompréhension, prise de tête, etc. Et c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à faire.
Oui, c'est
aux
ça, c'est
personnes.
Hyper touchy, tu vois. Enfin...
Mais ouais, très compliqué.
Genre, on recommande de ne pas faire de sexe si on n'a pas envie de faire du sexe. Mais en fait, effectivement, il arrive des situations où, même en tant qu'asexuel, bah, tu te retrouves à. En fait, éventuellement, faire du sexe, c'est moins pire que assumer les conséquences de ne pas vouloir faire du sexe, quoi. Assez compliqué comme truc. Et dans les soucis que j'ai pu rencontrer aussi en tant qu'asexuel, il y a une sorte de sentiment d'injustice et d'impression de louper quelque chose, de fear of missing out. Parce que tout le monde n'arrête pas de dire, bah, le sexe, c'est trop bien, ça donne des sentiments, enfin, des émotions incroyables, tu te sens dans ton corps d'une façon, waouh, ça fait des feux d'artifice. Et moi, je suis là, mais pourquoi moi non, en fait? Enfin, c'est hyper frustrant, quoi. Enfin.
Ouais, d'un autre côté, maintenant, j'ai un petit peu renversé les choses aussi, parce qu'il y a plein de contacts, par exemple, physiques et intimes, que je suis en capacité d'avoir et d'apprécier d'une manière très intense. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes, parce que ça les conduit à une sexualité très vite, ce genre de geste, passent à côté de moments d'intimité très précieux pour moi et très intenses. Et du coup, il y a un peu un aspect de « Eh ben, vous savez quoi ? Moi, je rate peut-être le sexe, mais vous ratez tellement d'autres contacts qui sont incroyables !» Donc, ça a compensé un peu ma FOMO, mais je pense que j'avais cette peur de rater quelque chose, effectivement, pendant très très longtemps. Et que maintenant, j'ai un revers.
Elle est cool. Moi, j'avais quand même un truc aussi dans les relations polyamoureuses qui sont... Il y a un moment où moi, je me suis sentie particulièrement asexuelle. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais il y a ce truc de... On peut être plus ou moins asexuel ou plus ou moins attiré par le sexe en fonction de nos périodes de vie. Et c'est pas parce que on est asexuel aujourd'hui qu'on le sera pour toute notre vie, et c'est pas parce que on a envie de contact sexuel aujourd'hui qu'on en aura toujours envie. C'est, il y a une fluidité et une évolution possible de ce truc-là. Et donc ce que je voulais dire, c'est que en relation polyamoureuse, en étant très asexuel et en voyant mon partenaire avoir de la sexualité avec une autre personne, ça a pu être très difficile parce que j'étais à voir, c'est quelque chose que mon partenaire aime beaucoup, et il y a une autre personne qui arrive à lui apporter d'une façon que moi j'arrive pas à lui apporter, et ça a été difficile de me dire mais j'arrive pas à avoir cette complicité dans la sexualité avec mon partenaire et quelqu'un d'autre là, et j'avais une forme de jalousie et ça a pu être difficile quoi.
Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Adèle, quand tu parlais de dormir avec quelqu'un qui t'écoutait pas et qui commençait à ressentir de l'excitation. Bon, cette situation est complètement inacceptable de la part de cette personne, mais la manière dont on a parlé en disant que voilà, que cette personne ressent une excitation et après elle comprend pas que toi t'en ressens pas aussi, etc. C'est quelque chose que moi, il m'a fallu un temps pour le réaliser, et c'est pour ça que j'ai envie de le mettre vraiment en lumière. Ça devrait peut-être être évident pour tout le monde, mais vraisemblablement ça ne l'est pas. C'est que en fait, dans une interaction sensuelle avec quelqu'un, lorsque on commence à ressentir une forme d'excitation ou une forme d'intensité qui augmente, ça ne veut pas dire que c'est réciproque chez la personne en face. C'est pas parce que la relation sensuelle se passe bien et qu'il se passe un moment cool et que nous on ressent quelque chose, en fait, je sais pas, on doit se dire que ça, il se passe la même chose pour la personne en face, mais potentiellement la personne en face, elle est juste en train d'être à moitié endormie, en train de faire quelques petits gestes avec sa main, et en fait il se passe absolument pas la même chose sur la personne en face. Et là c'est dans le cas dans un lit, mais c'est valable aussi si, je sais pas, on est en train de danser et de se tourner autour et de faire quelques petits bisous et quelques petits frottements avec les bras, et tout à coup on sent beaucoup de choses en soi et on se dit ah, il se passe quelque chose. Et en fait, j'insiste vraiment sur ce fait que c'est pas parce qu'on ressent quelque chose dans une interaction à deux que forcément la personne en face elle ressent la même chose.
Ouais, c'est vachement intéressant que tu le soulignes, parce qu'en fait tout ça, moi ça a été vachement plus facile de le réaliser quand j'étais face à des personnes qui étaient très sexuelles et qui en fait d'une certaine manière s'attendaient déjà à ce que nos rapports soient différents par rapport à la sexualité. Et finalement, c'est les personnes qui étaient les plus sexuelles qui acceptaient le mieux que je sois pas trop sexuelle et que j'en ai pas envie, parce que elles avaient déjà été confrontées au fait que des personnes pouvaient ne pas avoir envie de sexe alors que elles en avaient envie. Et c'est assez intéressant, je trouve, parce que finalement, la connexion que je pouvais avoir en termes d'intimité et de rapport au corps, elle était plus forte avec des gens très, très, très sexuels. Et c'est un peu paradoxal quand même pour une personne qui se labellise asexuelle d'avoir des rapports apaisés avec des personnes très, très sexuelles. Donc voilà, un peu marrant.
Ouais.
Je pense que c'est une question que on en discute tout au long de cet épisode, mais qu'en fait, malgré le fait qu'on se veut aujourd'hui une société où le consentement est important, et là ils en reparlent à l'Assemblée nationale, etc., et c'est quelque chose, mais en fait en réalité ça l'est peu, et si on en parle aujourd'hui c'est parce qu'on réalise qu'en fait il faut parler un peu de consentement. Et pour la plupart des gens, en fait, cette notion de consentement elle existe, mais en fait c'est une question qu'il n'y a pas vraiment besoin de se poser, parce qu'en gros il se trouve que par hasard la plupart de la manière dont ils relationnent avec les gens, les gens qu'ils vont rencontrer en face d'eux, avec des sous-entendus et en posant une fois par-ci par-là une maigre question, ils vont arriver à ce que les gens soient alignés, parce que on va se retrouver avec des gens qui sont plutôt normaux, qui vont interagir avec des gens qui sont plutôt dans la même norme, et du coup en fait avec des sous-entendus ça va un petit peu marcher. Et en fait, et c'est là que ça devient très sérieux et très grave, c'est que si on considère que il n'y a pas forcément besoin de se poser plus de questions que ça, puisque en fait il n'y a jamais eu de problème, potentiellement t'as jamais de problème sur les 10 prochaines personnes avec qui tu vas interagir, mais la 11e c'est une personne qui en fait est pas exactement dans cette norme, tu vas pas te poser de questions, et donc du coup pas de chance, et c'est très très grave, mais pas de chance pour les deux personnes, il y en a une qui va agresser l'autre, mais sans s'en rendre compte, parce qu'elle va pas elle va pas lui dire en fait est-ce que t'as vraiment envie de faire ça, parce que il y a ce sous-entendu qui est présent, et qui par chance, dans les 20 dernières années de sa vie, elle n'est jamais tombée sur une personne qui n'était pas dans la même norme qu'elle, mais là, pas de chance, on arrive sur un truc et ça devient une agression, et c'est très grave.
Ouais, et je pense que ça arrive plein aussi que les personnes ne savent pas qu'elles ont fait l'amour avec quelqu'un qui n'avait pas envie de faire l'amour avec, avec elles. Là-dessus, je voudrais donner des exemples, c'est-à-dire que quand on n'a pas envie de faire du sexe, on peut se retrouver quand même à faire l'amour pour plein de... pour quelques raisons ok, et pour de mauvaises raisons qui sont... qui peuvent être par exemple la peur de décevoir, la peur de dire non. Et il peut y avoir d'autres choses qui sont le pas savoir quand ou comment dire non aussi, parce que le contact physique, il va en évoluant. Et il y a un peu des moments où tu te dis, ok, j'ai pas vraiment envie que ça aille plus loin, mais comme on est déjà là, peut-être c'est trop tard. Et ça m'est déjà arrivé d'être un peu embarqué là-dedans et pas savoir quand dire stop, en fait. Et si la personne en face de moi, elle prend pas le temps de dire, ok, est-ce que t'as envie qu'on continue? Juste cette question, ou est-ce que tu préfères qu'on arrête, ou si tu veux on arrête, ou bien la personne arrête de me stimuler et voit si moi je vais vers elle ensuite, quoi, pour laisser l'ouverture au fait que le contact il peut s'arrêter.
Ouais, et puis là on parle de nous aujourd'hui, mais enfin moi plus jeune, je me disais aussi qu'il y avait une forme de pression sociale. Quand on n'a jamais fait l'amour, il y a un moment où on se dit est-ce que c'est ok à X ans de ne pas avoir fait l'amour, est-ce que il faudrait que je fasse ma première fois, est-ce que si j'aime pas c'est juste parce que c'était ma première fois et du coup qu'il faut que je réessaye, parce que il paraît que le sexe c'est trop bien, donc à cause entre guillemets d'une norme et d'exposition très forte à la sexualité, à une pression sociale, on va avoir tendance aussi à ne pas forcément vouloir dire non, à ne pas savoir le faire, en tout cas sur ce plan. Donc c'est très compliqué, surtout dans les débuts.
Tu parlais, Alexia, du fait que peut-être à un moment c'est trop tard, puisqu'on a déjà atteint un stade. Il y a une particularité du consentement qu'on n'a pas évoqué, qu'un vrai consentement, il doit être révocable, et donc il ne peut y avoir de consentement que si, à tout moment, même au moment le plus frustrant d'un rapport sexuel, eh bien, n'importe laquelle des personnes peut dire stop, on arrête. Et en fait, il y a un truc très important et assez facile à concevoir, c'est qu'en fait, ok, ça peut être très frustrant d'arrêter une interaction. Pour certaines personnes, ça peut être très frustrant, enfin, même je suppose pour toutes les personnes, ça peut être frustrant, on est en train de faire quelque chose qu'on aime bien, et puis tout d'un coup on nous dit stop, bon, c'est frustrant. Mais, qu'est-ce qui est pire? La frustration temporaire de quelque chose, ou le fait de savoir après coup que cette personne n'a rien dit et qu'en fait on a agressé sexuellement une personne?
Moi j'en sais rien.
Non, mais voilà. En fait, et du coup, quand on hésite à dire « Ah, est-ce que je devrais dire non ?»
Ouais.
Eh ben, on peut garder ça en tête. C'est qu'en fait, peut-être que la personne va pas apprécier de recevoir un non, mais en fait, quasiment tout le monde va préférer être frustré sur un moment que de savoir après coup qu'elle a agressé quelqu'un.
Ouais, mais après, si tu le dis jamais, tu vois.
Oui.
Mais bon, ne faites pas ça. Sachez dire stop. Et puis, si les gens sont frustrés, et bah, ils pourront se défrustrer ailleurs. Va te défrustrer ailleurs.
Moi, ça m'a énormément aidé finalement, effectivement, que une personne me fasse remarquer que si vraiment la personne elle était frustrée, elle était capable de se satisfaire elle-même. Ouais. Je sais plus qui m'avait dit ça, et il y avait un aspect hyper réconfortant à me dire. Ben en fait, c'est vrai que certes la personne elle a envie d'une interaction avec moi, mais elle a pas besoin d'une interaction avec moi. Et il y a une différence. Et bah du coup, si elle a un besoin sexuel, bah elle peut le remplir ailleurs. Et je suis pas du tout nécessaire.
Après, je dis pas que c'est facile forcément de dire non.
Bien sûr.
Voilà, mais on parle de tout ce qui peut aider à dire non, de se rendre compte qu'en fait c'est quelque chose de positif de dire non si jamais on n'a pas envie. C'est positif sur plein de sujets, mais ça reste difficile pour plein de sujets qu'on a évoqués parce que, bah, comme disait Adèle à un moment, parfois ce n'est pas entendu, ce qui est extrêmement grave, mais du coup ça rend le truc plus difficile de le dire, de se dire c'est difficile à dire, même si je le dis, c'est pas entendu, donc ça c'est très très grave, mais c'est voilà, ça peut expliquer. C'est difficile parce que parce qu'on a envie de faire plaisir à l'autre potentiellement, et donc du coup peut-être se dire à quel point je peux faire quelque chose dont j'ai pas trop envie, à quel moment je dépasse ce que je suis prête à offrir.
Ouais.
Et c'est difficile aussi pour d'autres sujets dont on n'a pas encore évoqué, mais qui est toute la romantisation de la sexualité dans la société, qui est que le sexe c'est important pour l'amour, que le sexe c'est le ciment du couple, et que si tu as pas de sexualité, en fait t'es pas vraiment amoureux.
Ouais. Par rapport à ce truc de dire non à quelqu'un et cette personne va être frustrée, je voulais juste raconter cette anecdote qui est que il y a une fois où j'étais dans une situation où on faisait des câlins avec quelqu'un et cette personne m'a mis un stop et c'était la première fois de ma vie, je pense, que quelqu'un me mettait un stop comme ça. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que bah, j'avais envie d'aller plus loin et c'était la première fois de ma vie, du coup, où c'était moi la frustrée. Mais sauf que dans ce contexte-là, j'étais à « Ouah, trop bien !» En fait, ce qui se passe là, c'est que l'envie que j'ai, c'est vraiment la mienne et c'est pas une envie de « j'ai l'impression qu'on attend ça de moi » parce que la personne, en l'occurrence, ne veut pas ça de moi. Et ça a été hyper agréable de me prendre ce nom parce que du coup, ça m'a fait sentir que mon désir était le mien. Et donc, c'était la meilleure frustration de l'histoire. Et ce qui était trop cool aussi, c'est que par la suite, comme cette personne, elle m'a dit non, ben je savais qu'elle serait capable de comprendre si moi je disais non, et ça a permis une relation qui a été beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine, parce que c'est une personne à qui je peux dire non sur le plan sexuel très facilement, quoi.
Malheureusement, c'est pas toujours complètement symétrique, hein. Il y a des personnes bien peu respectueuses qui n'ont aucun problème à dire quand le moindre truc les embête, mais qui n'ont pas forcément envie d'écouter les autres.
Ouais. Mmh. Eh bien, c'est des gros nuls. Super. Donc, on a vu plein de problèmes. Maintenant, j'aimerais autant de solutions. Alors, comment on fait ?
En gros, pour moi, il y a différents soucis. Il y a la reconnaissance en elle-même de la sexualité, et ça, bah, on en a parlé. Il faut juste que ce soit dépathologisé et que les personnes, elles réagissent d'une manière un petit peu plus ouverte au fait du vécu de plein de personnes et du fait que les vécus peuvent être très différents.
Ouais.
Et après, il y a effectivement l'aspect de, dans une relation, comment on gère les différences de libido. Et si une personne veut plus de la sexualité que l'autre, comment on fait ? Et ça peut être le cas d'ailleurs dans des relations monogames. Ça peut aussi être le cas dans des relations polyamoureuses. Enfin, c'est très variable et c'est un vrai sujet dans plein de circonstances.
Et ça peut être le cas entre des personnes allosexuelles, ça peut être entre des personnes effectivement qui sont toutes les deux asexuelles, mais pas exactement sur le même spectre. Mais c'est surtout le cas s'il y a une personne asexuelle et une personne allosexuelle.
Ouais. Bah, du coup, il y a des moments où c'est quand même possible si, par exemple, la personne allosexuelle a pas besoin de forcément énormément de sexualité, ou qu'elle peut développer de la sexualité de son côté, par la masturbation, par exemple. Et que c'est pas important pour elle d'avoir vraiment de la sexualité pour se sentir aimée. Parce que, comme tu le disais, Sacha, tout à l'heure, il y a ce lien qui est très fort entre... Enfin, cette romantisation du sexe qui est assez forte. Et ça peut être assez difficile de comprendre qu'on est aimé s'il n'y a pas de sexe pour des personnes qui sont allosexuelles, quoi.
Ou ça peut prendre plusieurs années, effectivement, de déconstruire ça, de se dire, en fait, il n'y a pas de sexualité, mais c'est complètement décorrélé.
Moi, je pense qu'une... Une possibilité aussi, c'est en fait revaloriser d'autres formes d'intimité qui sont possibles, même avec des différences de perception de la sexualité. Par exemple, moi je considère que j'ai pas spécialement envie de sexe, en particulier de sexe au sens génital, ça m'intéresse vraiment pas et j'ai pas envie d'en avoir. Ça veut pas dire que je vais pas apprécier d'autres types de contacts physiques, éventuellement qui impliquent de la nudité ou pas. Des grattes sur le bras, des contacts entre deux mains, ça peut générer énormément d'intensité pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que chez mes partenaires, ça pouvait aussi être le cas et que ils pouvaient découvrir une nouvelle forme de jeu, d'une certaine manière, avec la corporalité auquel ils n'avaient pas accès avant et qui peut être très intense. Du coup, je pense que ça peut aussi être une réponse pour construire une intimité un petit peu différente et un rapport finalement différent au corps et à l'intimité construite avec l'autre.
Ouais.
Oui, et comme tu dis, changer ou explorer d'autres types de pratiques qui, selon les définitions, vont être considérées comme des pratiques sexuelles, mais qui ne vont pas être le type de sexualité qui va gêner la personne asexuelle et rester dans la sensualité... Ça peut s'apparenter clairement à la sexualité, mais où on aura effectivement moins de place à la pénétration, moins de place à la génitalité, moins de place à tout ça. Et par moins, ça peut être une absence totale par ailleurs. Mais il y a pas mal de personnes asexuelles qui vont être intéressées par tout un tas de pratiques dans le champ BDSM, c'est-à-dire des pratiques comme de l'attachement, enfin de la contrainte quoi, ou des ce qu'ils appellent des impacts, c'est-à-dire donner de la sensation par des coups qui sont plus ou moins douloureux selon ce que les gens apprécient. Tout ça c'est une forme de corporealité, de sensualité qui peut être considérée comme de la sexualité mais qui n'est pas la même chose que la sexualité standard que les gens ont en tête et qui peut selon les gens plaire à certaines personnes asexuelles.
Mmh. Ouais, c'est effectivement du coup là aussi une exploration possible du corps et de ce qu'on ressent à travers sa peau, quoi.
Ouais, je pense que l'éloignement de la norme, elle aide dans le sens où, ne serait-ce que ça, ça permet aux deux personnes qui sont impliquées dans la relation de se questionner sur ce qu'elles veulent, d'être à l'écoute sur ce que l'autre désire, sur ce qui plaît, sur ce qui déplaît au contraire. Et finalement, c'est une manière de co-construire un espace de sécurité et de plaisir. Et je pense que c'est effectivement très intéressant de le construire de cette manière-là. Ça permet d'introspecter, en fait, à deux.
Mm-mm. Ouais, j'allais en venir à ce sujet d'introspection. Je pense que quand on est dans des sujets comme ça, où on vit les choses différemment de notre partenaire, et où il y a beaucoup d'injonctions qui se mêlent à tout ça, c'est vraiment important d'essayer de faire le point sur ce qu'on ressent et sur ce dont on a envie pour réussir à l'exprimer aussi à un ou une partenaire, quoi. Tout l'exercice d'introspection puis de communication de où est-ce qu'on en est, alors qu'on sait pas forcément tout le temps où est-ce qu'on en est. C'est un jeu qui est hyper important dans la relation.
Et savoir ce dont on a envie, c'est aussi important pour la personne qui a le plus de libido parce que en fait, parfois, il peut y avoir cette envie d'avoir de la sexualité qui est en fait comme si c'était une idée de fond ou comme si c'était quelque chose parce que c'est important, parce que c'est normal ou parce que souvent on en a envie. Mais en fait, se poser la question de, la personne qui a le plus envie de libido, en fait, parfois, elle a aussi pas envie et c'est important qu'elle s'en rende compte aussi que, ouais. En fait, peut-être qu'elle en a moins envie que ce qu'elle ne pense.
Ou peut-être qu'un contact tendre ou une réassurance sur l'amour qu'il y a dans la relation est finalement ce qu'elle désire obtenir à travers un acte sexuel, mais qu'elle peut l'obtenir différemment. Et que si l'autre personne lui cuisine un truc ou lui montre son amour d'une autre manière, elle sera très contente.
Moi, je veux bien qu'on me rassure avec des pancakes.
Après, on a parlé de toutes ces difficultés de dire non, etc. Et du coup, ça peut être un frein aussi pour les personnes qui ont le moins de libido de aller vers une activité de type sexuel si jamais on sait que dire non, ça va être compliqué, ça va être, ça rajoute une couche. Donc, un point important, c'est du coup de faire le point sur à quel point est-ce que tout le monde est d'accord et est conscient et mettre des outils en place éventuellement pour que tout le monde soit à l'aise de pouvoir dire non, de s'arrêter, de vérifier fréquemment que s'il y a une personne qui sait qu'elle va avoir du mal à dire non, que l'autre sache ça et donc proactivement en face fasse des efforts pour soit poser la question souvent, mais poser la question ça ne peut ne pas suffire si la personne en face n'est pas capable de dire non, mais donc du coup faire des choses dont tu as un petit peu évoqué Alexia, éventuellement ça peut être des choses où de temps en temps on fait un peu une pause où on attend que ça soit proactivement la personne qui ne sait pas dire non qui doive faire un effort pour relancer. Et si c'est la personne qui ne sait pas dire non qui doit faire un effort, ça n'empêche pas tous les problèmes, mais en tout cas, ça les limite très fortement.
Mmh. Ouais, vraiment, l'utilisation de l'étiquette asexuelle, ça m'a quand même bien aidé dans mes relations. Non pas que je veuille absolument jamais de sexualité, mais juste cette étiquette me permet de poser les bases et de dire aux gens que je suis susceptible de, avec qui je suis susceptible de relationner, leur dire en fait il existe ce truc que moi j'ai très très peu de libido et je vous préviens tout de suite et comptez pas sur moi pour satisfaire des envies que vous pourriez avoir. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le polyamour du coup, qui est vraiment très confortable pour moi, de me dire que je suis pas responsable de la sexualité de mon ou ma partenaire, parce que en plus, enfin déjà c'est pas le cas je considère dans les relations mono, mais là d'autant plus que la personne peut facilement, n'a pas de contraintes de relation pour aller passer du temps sexuel avec d'autres personnes quoi.
Ouais, il y a pas de restriction de la part de l'autre personne. Et effectivement, le terme asexuel c'est un terme un peu parapluie qui va renvoyer une image à l'autre personne et qui dit le sexe ne sera pas central dans notre relation, donc si c'est ce que tu cherches avec moi, eh bien ça ne va pas fonctionner. Je suis d'accord avec toi sur l'utilité de cette étiquette et de ce terme parapluie, quand bien même il y a plein de subtilités, on l'a dit, et plein de, d'autres types de manières de relationner qui se cachent derrière ce mot.
C'est ça. Avertissement de contenu, je ne contiens pas de libido.
Ben oui, c'est un peu ça.
Mais ça peut être difficile à vivre puisque, eh bien, il existe en début de relation l'énergie de nouvelle relation qui va faire que une personne, même une personne asexuelle, va probablement avoir plus envie de sexualité à ce moment-là. Et donc, sur le début d'une relation, il peut y avoir un certain niveau de sexualité qui peut presque même sembler normal dans certains cas. En tout cas, peut sembler normal à la personne qui a le plus de libido, qui va se dire, eh bien, là, ça ressemble à un niveau qui me convient. Et c'est ensuite quand ce niveau descend que ça devient compliqué, notamment, et ça c'est un problème de magazine féminin, de chanson ou de je ne sais quoi, c'est on n'a plus de sexualité, c'est grave, on s'aime plus, c'est un problème. Et il y a vraiment cette notion de avoir une sexualité qui diminue ou ne plus avoir de sexualité ou ne pas en avoir assez, eh bien ça sera un grave problème parce que le sexe étant le ciment du couple, dit le dicton, eh bien c'est grave. Et du coup, là, vu qu'on parle de solution, la solution, c'est d'arriver à passer outre ce système de pensée et réaliser que la sexualité, c'est une chose parmi d'autres.
Oui, tu fais bien de parler de ça, Sacha, parce que c'est vrai que l'ENR a une phase de relation vraiment particulière. Et c'est vrai que des personnes qui sont plutôt asexuelles peuvent avoir un peu plus de désir sur cette phase-là et un désir qui va se réestomper après, quoi. Et dans les relations polyamoureuses, j'imagine, enfin, ça peut être compliqué aussi parce que quelqu'un qui est globalement asexuel peut d'un coup devenir sexuel avec un nouveau partenaire. Et ce truc-là peut être un peu déstabilisant, j'imagine, pour les partenaires existants.
Ça peut être dur à vivre, effectivement, si ils se disent « Bon, ok, j'ai accepté qu'on n'ait plus trop de relations sexuelles parce que la personne avec qui je relationne est asexuelle, donc... Ok, on a moins de sexualité, mais c'est vraiment parce que ça n'intéresse pas l'autre personne. Et puis tout d'un coup, ça intéresse quand même l'autre personne.
Ouais, c'est ça.
Mais pas avec soi-même. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose qui, sociétalement, est encore plus difficile à avaler.
Ouais.
Après, d'une manière générale, la sexualité, c'est un sujet qui est assez tabou encore dans nos sociétés et qui pose des problèmes. Et plus communiquer autour de ça et accepter qu'on peut avoir des différences d'intérêts et que ça peut varier avec le temps, ce serait constructif pour tout le monde, je pense.
Et après, si on est en relation et qu'il y a une différence de libido, donc là, on a surtout parlé de peut-être... faire d'autres choses ou accepter le fait que en fait avoir moins de sexualité que ce qu'une des personnes pouvait imaginer, c'est pas si grave. Mais il y a aussi potentiellement des gens qui vont avoir envie de favoriser le fait qu'il y ait de la sexualité. Et dans ce cas-là, bien c'est important de discuter de quels sont les facteurs qui peuvent aider à avoir de la sexualité. Et donc si une personne veut avoir plus de sexualité, elle peut aussi faire les efforts qui sont les efforts de faire en sorte que l'environnement soit propre, rangé, que ça sente bon, potentiellement, que toutes les tâches en cours sont terminées, que s'il y a des enfants à s'occuper, que les enfants aient bien été occupés et soient au lit, et avoir ce cadre qui soit créé, parce qu'en fait, si une personne a envie qu'il y ait plus de sexualité, il faut aussi pouvoir créer ces moments de sexualité. Et parmi les grands mythes qui sont bien embêtants autour de la sexualité, il y a ce mythe que la sexualité doit être spontanée. Une bonne sexualité bien passionnelle et amoureuse comme il faut que ça soit quelque chose qui vienne spontanément et qu'on en ait envie tout de suite, alors que en fait, dans la pratique, au bout de une fois que l'énergie de nouvelle relation est passée, c'est quelque chose qui n'arrive plus beaucoup et en fait, c'est plus quelque chose qui va être provoqué et qui va être en réaction à différentes choses et qu'en fait, les gens vont recevoir de l'excitation en réaction à une situation.
Sachant que ces excitations et ces sexualités, en fait, elles ont le droit aussi d'être différentes pour les deux personnes. Il y a aussi généralement une confusion sur le fait que du bon sexe doit être absolument symétrique. Et en fait, ça, c'est pas forcément nécessaire. Alors, bien sûr, il faut se poser la question de quoi a envie et de quoi a besoin son partenaire. Mais ça peut aussi... passer par une phase d'acceptation de on va avoir des envies et une excitation qui passe vraiment par différentes choses et donc on va se stimuler d'une manière différente mon partenaire et moi pour
Mais du coup je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la préparation d'un cadre, Sacha. Enfin, c'est vrai que c'est très fort. Je peux, par exemple, être très facilement stressée par il y a tel truc à faire et avoir la charge mentale, ça peut vraiment finir de me couper de toute ouverture sexuelle, quoi. Donc, effectivement, si je me retrouve avec quelqu'un qui veut de la sexualité avec moi et que j'en veux, pourquoi pas aussi, si cette personne, elle fait les efforts pour, enfin, m'aider à faire en sorte que le contexte soit plus agréable, bah effectivement, ça va aider à avoir de la sexualité. Après, attention, parce que on se met à faire des efforts, peut-être en se disant, ok, on aura éventuellement de la sexualité, mais on peut toujours ne pas en avoir, quoi. Ce qui est pénible, c'est que si quelqu'un me prépare un cadre et tout, je vais être là, genre, merde, cette personne attend de la sexualité de ma part et je vais me mettre la pression et ne faites pas ça chez vous, quoi.
Et en fait, c'est construire un cadre favorable, mais c'est pas avoir des attentes et le faire dans le but que la sexualité soit cochée et que ce soit le point d'aboutissement.
Ouais.
Et la préparation de ce cadre et la charge mentale dont parlait Alexia, qui coupe l'accès à la sexualité, c'est quelque chose d'ailleurs qui est fréquent d'une manière générale chez beaucoup de personnes et en particulier des femmes. Et d'ailleurs, il y a une BD qui a été faite sur la charge mentale et le fait que dans beaucoup de couples, l'accès à la sexualité est compliqué pour les femmes. C'est les BD de Emma, pour les personnes que ça intéresse.
Oui, il faut pas non plus que des gens se disent « Ah bah attends, j'ai passé l'aspirateur, donc maintenant tu me dois du sexe, hein. »
Oh non, cauchemar. Je dois à présent amener ce moment que nous redoutons tous, la conclusion de l'épisode. En tout cas, moi je la redoute. Mais je suis contente d'avoir pu aborder ce sujet d'asexualité. On a parlé de la diversité de vécu que ça recouvre, des soucis qu'on peut rencontrer quand on est asexuel, et on a même pu discuter de comment composer avec une sexualité différente de celle de sa ou son partenaire. Pour terminer, Adèle et Sacha, est-ce que vous voulez rappeler un point à retenir ?
Moi, j'aimerais rappeler qu'être asexuel, ce n'est pas une pathologie, même si ce n'est pas la norme. Alors, à vous qui sommes non asexuels, essayez d'être moins prompt à vous moquer ou à juger les personnes moins sexuelles que vous.
Moi, je dirais que dans une relation avec une personne asexuelle ou non, d'ailleurs, il est important de se rappeler que la personne est forcément différente de soi et donc de ne pas projeter toutes nos manières d'être, notre rapport à la sexualité à l'autre personne et de ne pas penser, lorsque on a une excitation qui monte, qu'elle monte également simultanément chez la personne en face.
Et moi, je vais conclure en rappelant que les questions d'asexualité, c'est vraiment un spectre. Ça recouvre des réalités très différentes et des réalités aussi qui fluctuent. Donc, vous pouvez avoir des périodes de vie où vous avez très peu d'attraction et d'autres périodes où vous en avez un peu plus. Il y a plein de facteurs qui peuvent modifier ces choses-là. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast en est à ses débuts et on est avide de vos retours. N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur contact@atesamours.fr et on se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez trouver le transcript et les sources de cet épisode sur notre site atesamours.fr. À bientôt pour le prochain épisode.